J'ai une très bonne question pour vous. Comment pouvons-nous régler les problèmes de la vie? La parole de Dieu va nous donner une réponse que nous avons tous besoin d'entendre, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, que vous soyez riches ou pauvres, instruits ou moins instruits, je suis certaine que vous allez tous apprécier les réponses que la Bible va nous donner aux questions que voici. Est-ce que nous naissons tous avec une nature pécheresse? Est-ce que notre éducation peut changer notre cœur? Est-ce que l'éducation peut changer la société? Où pouvons-nous trouver les réponses pour régler les problèmes de la vie? Est-ce qu'une personne peut être à la fois sage et folle? Qu'est-ce que la sagesse entraîne? Est-ce que l'alcool, le divertissement et les plaisirs sexuels peuvent soulager notre âme? Est-ce que les richesses peuvent nous apporter le bonheur? Demeurez à l'écoute, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous les donner et on sait qu'elles proviennent du grand livre de Dieu, la Bible. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il nous instruise lui-même par la bouche de son serviteur. Prions. Oui, Seigneur, on veut que ce soit toi qui nous instruise. Donne la sagesse à ton serviteur. Parle par sa bouche. Parle tout droit à nos cœurs. Transforme-nous par ta belle parole pour qu'on puisse marcher d'une manière digne de toi, digne de ton amour, digne de cet amour que tu nous as manifesté par Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la Bible n'est pas un traité scientifique. Nous avons abordé ce sujet parce que certaines personnes voient des lois scientifiques et des théories scientifiques dans certains versets de la Bible. Certains de ces versets se trouvent dans le premier chapitre de l'Ecclésiaste. Nous avons fait remarquer que ces versets décrivent simplement des observations que n'importe qui peut faire, même sans connaissance scientifique. La Bible est un livre qui nous révèle Dieu, et elle ne prétend pas être un traité de science. De plus, nous avons vu que le progrès scientifique et technologique n'a pas apporté un sens à notre vie, ni comblé le vide dans notre cœur. Toutes les inventions scientifiques n'ont pas comblé les êtres humains. Nous observons peu de contentement chez les gens malgré tous les appareils que nous possédons, tous les gadgets que nous nous sommes procurés. La science a servi autant à la destruction qu'à l'amélioration de notre confort. Elle a servi à développer des armes de destruction massive. Par contre, elle n'a pas transformé le cœur humain qui est toujours injuste, cruel, méchant et égoïste. Il y a toujours énormément de souffrance humaine. La philosophie et la psychologie n'ont rien fait pour changer la nature humaine. Elle demeure corrompue. Ce ne sont pas les gouvernements et les partis politiques qui peuvent améliorer les choses. Les gens sont avides de pouvoir. Les systèmes politiques finissent donc par se corrompre. Ce qu'il faut à l'être humain, c'est un cœur nouveau. Toute personne doit naître spirituellement. Seul Dieu peut nous donner un cœur nouveau, une nouvelle vie. Il le fait lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous venons à Jésus-Christ pour recevoir le pardon de nos péchés et par le fait même, avoir la vie éternelle. Chers amis, débutons notre lecture du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 15. « Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Nous naissons avec des natures pécheresses. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Si l'on plante une branche courbée dans le sol afin qu'elle prenne racine, elle deviendra un arbre courbé. L'arbre grandit courbé parce qu'il provient d'une branche courbée. Nous naissons avec une nature pécheresse que nous tenons de nos parents. Nous pouvons l'instruire et prendre quelques mesures pour l'améliorer, mais ce qu'a dit Jésus demeure vrai. Ce qui est né de la chair est chair. Jean, chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair demeurera toujours charnel. Il nous faut donc une nouvelle nature, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Toujours Jean, chapitre 3, verset 6. L'éducation ne change pas le cœur humain ni la société. Pendant longtemps, de nombreux spécialistes ont cru qu'instruire les populations pourrait résoudre les problèmes sociaux et économiques. Aujourd'hui, beaucoup perçoivent que ce n'est pas le cas. En fait, l'Allemagne hitlérienne était très instruite et très éduquée. Cela n'a pas empêché la population de suivre un parti qui a été responsable de nombreuses atrocités, dont le génocide des Juifs. Les Anglais et les Irlandais sont des gens très instruits. Tous reçoivent une éducation dans ces deux pays. Cependant, cela n'a pas empêché la violence en Irlande du Nord. Les populations des pays où tous ont accès à une éducation et aux écoles sont aussi violentes que celles des pays du tiers-monde où l'analphabétisme est très répandu. Dans les pays où l'éducation est très répandue, nous voyons autant de violence et de problèmes sociaux que dans les autres pays. Chaque jour, les médias de ces pays rapportent des meurtres, des cas de violence conjugale, des viols, des cas d'aînés maltraités. Des inadaptés sociaux commettent des actes de violence. Des bandes de malfaiteurs se font la guerre entre elles. Des centaines de personnes se suicident. D'autres fuient la réalité dans la drogue et l'alcool. Les psychiatres et les psychologues aident très peu ces personnes. En fait, c'est en développant des méthodes d'enseignement fondées sur des théories psychologiques que l'on a provoqué la détérioration du système scolaire. Par exemple, on a cru que les jeunes apprendraient mieux dans des écoles décloisonnées où la discipline serait moins stricte. L'expérience a été un échec retentissant. Les réponses sont dans la Bible. Souvent, les méthodes psychologiques sont couvertes d'un vernis de christianisme. Pour en vanter les mérites, on les défend en citant des versets bibliques hors contexte. Mes amis, la parole de Dieu, prise dans son entier, contient toutes les réponses pour régler les problèmes de la vie. Les chrétiens n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Cependant, la Bible ne donne pas des solutions faciles à appliquer. Étudier sérieusement et profondément la parole de Dieu demande des heures d'effort et de la persévérance. Salomon, le roi d'Israël, a constaté que la sagesse et la philosophie ne peuvent résoudre les problèmes de l'homme. Retournons au texte de l'Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 16. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. La Bible est notre autorité. Je pense que le comportement de Salomon a dû laisser entrevoir une attitude orgueilleuse et arrogante, car il était plus sage que tous les autres. L'apôtre Paul a dit, « La connaissance enfle », citation de 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. Quelqu'un peut se considérer très supérieur aux autres s'il perçoit qu'il est un peu plus sage et un peu plus instruit que les autres. L'éducation est fondée sur l'expérience, mais l'expérience n'est pas fiable. Nous devons examiner nos expériences à la lumière de la parole de Dieu. Malheureusement, de nombreuses personnes font l'inverse. Si elles ont fait une expérience et que celle-ci ne correspond pas à l'enseignement biblique, alors elles rejettent ce que la Bible dit. Des gens examinent la parole à la lumière de l'expérience plutôt que d'examiner leur expérience à la lumière de la parole de Dieu. Par exemple, de peur de brimer un enfant, on a essayé de les laisser choisir leurs activités à l'école. Nous avons vu un relâchement dans la discipline. L'enseignement biblique qui dit d'instruire et de discipliner un enfant a été rejeté. Dans la Bible, la discipline n'est pas un châtiment, mais une forme d'instruction qui peut être accompagnée d'une punition. La Bible a été condamnée à la lumière d'une théorie psychologique, alors que l'on aurait dû examiner la théorie à la lumière de la Bible. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Il n'est pas dit de laisser faire aux enfants tout ce qu'ils veulent. La Bible est la parole de Dieu, et cela lui donne de l'autorité. Évitons d'utiliser la science, la psychologie pour juger et condamner la Bible. Faisons comme les disciples de Bérée, et examinons ce qu'on nous dit à la lumière des Écritures. Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. La sagesse et la folie peuvent facilement cohabiter la même personne. À connaître la sottise et la folie, précise le texte. La sagesse et la folie peuvent facilement cohabiter la même personne. Salomon est un bon exemple de personnage biblique. Il a gouverné avec sagesse, mais ses femmes l'ont éloigné de Dieu. Nous connaissons au moins deux athlètes de renommée mondiale qui ont connu un grand succès, mais qui ont été ruinés parce qu'ils ont réglé des problèmes avec des membres de leur entourage au moyen de la violence. Chaque nouvelle génération se pense intelligente et plus sage que la précédente. Cependant, la nouvelle génération ne peut pas régler les problèmes de son entourage. Combien moins ceux du monde. Le roi d'Israël, Salomon, a appliqué son cœur à connaître la sagesse, la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Autrement dit, tous ses efforts ont été inutiles. Revenons au texte de l'Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 18. Nous lisons, « Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » La sagesse entraîne des souffrances. Notre joie et notre contentement n'augmentent pas proportionnellement à notre sagesse et à nos connaissances. Plus nos connaissances augmentent, plus nous augmentons nos problèmes. La vie est devenue plus fastidieuse. Certains emplois en usine sont des plus monotones. En général, les gens sont stressés. Tous les gadgets que nous avons nous rendent parfois la vie impossible. Les machines que nous avons polluent notre environnement, et les usines qui produisent les machines polluent abondamment aussi. Les ordinateurs qui devaient simplifier les tâches peuvent nous rendre fous. Ils tombent en panne et nous passons des heures à diagnostiquer les problèmes et à chercher des solutions. Il faut continuellement se protéger des virus et des logiciels d'espionnage. Les fraudeurs, les pornographes et les pédophiles veulent faire des proies de personnes non méfiantes. Des jeunes prennent de l'embonpoint parce qu'ils sont devenus sédentaires en passant des heures à l'ordinateur. Les autorités médicales nous avertissent qu'ils souffriront du diabète très jeune. Il y a toujours un appareil à faire réparer ou à remplacer. De plus, la sagesse apporte des souffrances mentales. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour s'instruire, et ensuite, il faut en faire pour ne pas oublier ce que nous avons appris. Lorsque nos connaissances augmentent, nous percevons que nous avons fait des erreurs dans le passé. Si nous faisons des découvertes intéressantes, nous en faisons beaucoup plus qui sont déplaisantes. Une personne instruite peut percevoir des problèmes qui se produiront alors qu'une personne non instruite ne les percevra pas. Il y a environ 20 ans de cela, dans une petite ville du Nord, une secrétaire travaillait dans le bureau du journal local. Un des journalistes a exprimé une certaine inquiétude au sujet du réchauffement de la planète. « J'ai hâte que la planète réchauffe, » dit la secrétaire. « Nous aurons du beau temps comme dans le sud. » Le journaliste, qui avait aussi étudié la science, ne pouvait pas partager son optimisme. Il était capable de prévoir les catastrophes climatiques que le réchauffement engendrerait. Maintenant, nous passons au chapitre 2 du livre de l'Ecclésiaste. Dans ce chapitre, Salomon essaie une autre avenue pour trouver le contentement. Cette route est populaire de nos jours. De nombreuses personnes cherchent le contentement dans le plaisir. Débutons la lecture de ce nouveau chapitre, Ecclésiaste 2, verset 1er. J'ai dit en mon cœur, « Allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. » Et voici, c'est encore là une vanité. Les plaisirs sexuels ne soulagent pas notre âme. À son époque, Salomon a probablement goûté à tous les plaisirs possibles et imaginables. Aujourd'hui, nous cherchons le contentement dans le plaisir sexuel. Qu'est-ce que ces plaisirs nous ont apporté? La prolifération des maladies transmises sexuellement et l'avortement sur demande. Saviez-vous qu'une étude récente a démontré que le taux de suicide chez les femmes qui se sont faites avorter est 6 fois plus élevé que chez les autres femmes? Des personnes, en majorité, mais pas exclusivement des hommes, sont dépendants du porno sur Internet. De nombreux mariages s'écroulent parce que le mari passe des heures à regarder des images et à se soulager lui-même. Certains sont tellement esclaves du porno qu'ils perdent leur emploi. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'en regarder sur l'ordinateur du bureau et leur productivité baisse. Salomon était un expert dans le domaine sexuel. Imaginez, il avait épousé 700 princesses et il avait 300 concubines. Un homme entouré de 1000 femmes développe sûrement une sorte d'expertise. Salomon a cherché le contentement dans les plaisirs sexuels. Il a aussi essayé la boisson et les divertissements. Jérusalem devait être le Las Vegas de l'époque. C'est au palais que se déroulaient de nombreux spectacles. Salomon s'est permis tous les plaisirs. J'ai dit en mon cœur, « Allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Cependant, notez sa conclusion. Et voici, c'est encore là une vanité. Ce n'est pas dans cette avenue que Salomon a trouvé le contentement. Ecclésiaste chapitre 2, verset 2. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Le rire est parfois une fuite de la réalité. Salomon avait peut-être embauché un bouffon ou des humoristes. Il a probablement entendu toutes les blagues imaginables. Il a conclu, « J'ai trouvé que c'est une perte de temps. En fait, les hommes ne rient pas de ce qui leur plaît. Si nous rions de beaucoup de choses, c'est que presque rien ne nous contente. Elles ne donnent pas de repos à notre âme. » Le rire met un baume temporaire sur les souffrances de notre cœur, mais il ne traite pas la cause profonde du problème. Verset 3. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. Sous les cieux. N'oublions pas que Salomon s'était éloigné de Dieu pendant qu'il faisait ses recherches afin de trouver ce qui pourrait remplir le vide en lui. La connaissance de la création et des créatures animées ou inanimées n'avait pas contenté le roi Salomon. Il ressentait toujours ce vide intérieur. Il décide donc de faire un grand usage des boissons et des mets succulents afin de voir si cela lui donnerait le repos de l'âme. Salomon ne s'est pas lancé dans la boisson aveuglément. Il se conduisait avec une certaine sagesse. Il étudiait toujours la sagesse. Son usage du vin était une nouvelle avenue qu'il explorait dans sa quête du repos de l'âme. Alors que nous examinerons les versets suivants, je suis certain que Salomon vous fait penser à quelqu'un que vous connaissez personnellement ou encore à quelqu'un dont les médias parlent souvent. Les riches et célèbres contemporains sont des copies conformes de Salomon. Ceux qui ne le sont pas aimeraient avoir les moyens de le devenir. Ecclésiaste, chapitre 2, verset 4. J'exécuterai de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Ces activités n'étaient que des passe-temps aux yeux de Salomon. De nombreuses ruines des étables de Salomon ont été découvertes, dont celle de Megiddo, une ville du territoire d'Issacar, que Salomon avait fortifiée. En fait, la loi mosaïque interdisait au roi d'Israël d'avoir un grand nombre de chevaux. C'est ce que nous lisons dans Lévitique chapitre 17, verset 16. Votre roi ne devra pas posséder un grand nombre de chevaux, ni envoyer des gens en acheter en Égypte, car le Seigneur vous a dit que vous n'auriez plus à retourner dans ce pays. Revenons à Ecclésiaste, chapitre 2, lisons les versets 5 et 6. « Je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Ces jardins devaient être merveilleux et gigantesques. Salomon a construit un système d'irrigation pour les arroser. » Verset 7. « J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux, de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. » Salomon avait un ranch, et il élevait des troupeaux de vaches et de brebis. Vous vous demandez peut-être comment il pouvait s'offrir tout cela. En fait, il avait le monopole du commerce de l'or. Salomon était un homme très riche. Les historiens affirment que Salomon faisait venir de la neige du mont Hermon afin de pouvoir déguster des breuvages froids pendant l'été. Salomon a essayé tous les plaisirs imaginables. Lisons le verset 8. « Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. » Salomon devait s'offrir les meilleurs artistes et les meilleurs spectacles de son temps. Les présentations devaient être dignes de Las Vegas. Tout cela n'a pas contenté son âme. Il ressentait toujours un vide intérieur. Ecclésiaste chapitre 2, cette fois les versets 9 et 10. « Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. » Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai point refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Les richesses n'apportent pas le bonheur. N'aimeriez-vous pas aller dans un centre commercial et de pouvoir vous offrir tout ce que vous verriez? Salomon aurait pu faire cela. En fait, il ne s'est privé de rien. Nous croirions que cela aurait rendu Salomon heureux. Cependant, ce ne fut pas le cas. Plus de gens riches se suicident que de sans-abri des quartiers défavorisés. Nous croirions que ce sont eux qui considèrent la vie futile. Cependant, les sans-abri ne remportent pas la panne du taux élevé de suicide. Ce sont les riches et célèbres de l'industrie, du divertissement, ceux qui semblent avoir réussi. Pourquoi se suicident-ils? Ils sont arrivés à la même conclusion que le roi Salomon. Verset 11 d'Ecclésiaste chapitre 2. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Ecclésiaste chapitre 2 verset 11 à chapitre 3 verset 1er.
Merci Régent. Eh bien, c'est très clair, mes amis. Notre éducation, la richesse, la sagesse humaine, l'alcool, le divertissement, les plaisirs sexuels ne peuvent absolument pas nous donner de bonheur. Je regarde ma vie avant que Dieu se fasse connaître à moi et je peux vous affirmer que c'est vrai. J'avais du succès dans une carrière artistique, je voyageais un peu partout dans le monde, je buvais les meilleurs vins, je me payais de la fine cuisine dans les grands restaurants, Et comme je le dis dans un de mes chants, j'ai mordu à belles dents dans les amours illicites. Aussi, je divertissais les gens par mes spectacles, et j'étais moi-même diverti en assistant à des grands spectacles. J'allais voir et entendre les grands musiciens du jazz à New York. J'allais magasiner dans les boutiques les plus huppées de Westmount. J'achetais des vélos et des systèmes de son pour des gens qui ne pouvaient pas s'en payer eux-mêmes. Mais où donc était le bonheur? Puis un jour, j'ai rencontré une dame qui avait trouvé la plus grande richesse qui puisse exister. Elle avait trouvé Jésus. Et tout bonnement, elle s'est mise à me parler de lui. Et à mesure que je l'écoutais, je réalisais que je croyais tout ce qu'elle me disait à son sujet. Elle m'a dit qu'il était Dieu fait homme. Et la Bible me le confirmait dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, au premier et au 14e verset qui disent « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Toute ma vie, j'avais cherché l'amour, la justice et la vérité. Et voilà qu'on m'annonçait que Jésus était lui-même la vérité. Et pour ce qui est de l'amour, j'ai appris encore dans l'Évangile de Jean, au 3e chapitre, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et concernant la justice que je cherchais tant, l'Épître aux Romains m'en parlait clairement, et même ces versets étaient écrits dans un grand cadre à l'Église que je me suis mise à fréquenter. C'est dans le 10e chapitre, aux versets 9 et 10 de l'Épître aux Romains. Voici ce que ça dit. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Et il ajoute au verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Mon ami, est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois du cœur, pas juste de la tête? Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour toi, pour le pardon de tes péchés? Tu sais, on est tous des pécheurs. Paul nous le dit dans son Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23. Tous ont péché. Mon ami, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Tu sais que tu seras pardonné. Il va pardonner tes péchés passés, présents et à venir. Tu vas être certain de passer l'éternité au ciel.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir, et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.